L'actualité scientifique avec le club des Têtes au Carré, mes invités pour commenter quelques-uns des faits marquants de ces derniers jours. Ça fait quel bruit un robot lorsque ça touche une comète? Eh bien, nous vous ferons entendre le son de Philae se posant sur Tchouri. Et puis dans l'actualité de la semaine, une première française dans la chirurgie du fœtus, une publication sur l'érosion à l'origine de séismes, la découverte de deux nouvelles particules dans le LHC, un médicament qui devait sauver l'Afrique, et puis une battle de cinéma scientifique entre les Lyonnais et les Marseillais. Mes invités avec moi en studio pour développer ces sujets, Jean-Marie Joannic, Philippe Sterre et Guillaume Lachenal. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Et puis nous serons en ligne également avec le physicien Elie Benaïm, Pascal Bazin depuis Oulin près de Lyon et Serge Dantin à Marseille. Professeur Jean-Marie Joannic, vous avez réalisé en juillet dernier une première en France avec l'opération in utero d'un fœtus de 5 mois atteint d'une malformation congénitale. L'annonce n'a été faite que cette semaine et vous allez nous expliquer comment vous avez pu intervenir sur la moelle épinière de ce fœtus. Le LHC, le grand accélérateur de particules, vient d'annoncer la découverte de deux nouvelles particules de la famille des baryons. Nous serons en ligne pour fêter cette découverte avec le physicien Elie Benaïm. L'érosion pourrait déclencher des séismes. Philippe Sterre, vous êtes maître de conférence à Rennes 1 et vous signez cette étude qui est publiée aujourd'hui dans la revue Nature Communication. Guillaume Lachenal, vous êtes historien de la médecine à l'Université Paris Diderot et vous avez provoqué cette semaine le courroux de l'Académie de médecine au sujet d'un ouvrage que vous signez aux éditions de la Découverte, le médicament qui devait sauver l'Afrique. Dans un communiqué envoyé avant-hier, l'Académie exprime publiquement son indignation. Eh bien, vous êtes là pour leur répondre. Et puis, nous irons à Lyon et à Marseille pour saluer deux festivals de films scientifiques qui viennent de démarrer en même temps dans les deux villes. Voilà pour les sujets dont nous allons parler cet après-midi. Vous nous rejoignez, bien sûr, pour vos questions, vos témoignages sur franceinter.fr et puis également sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « l'attaque ». Violaine Bellet réalise ce club des Têtes au Carré préparé par Sylvain Guilbeault.
La Tête au Carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
What?
Man Funk avec Guts à l'instant sur France Inter.
Le club carré sur France Inter.
Une opération in utero sur un fœtus avec une première française, la découverte donc de nouvelles particules dans la famille de la physique, l'érosion qui pourrait entraîner des séismes, un livre sur un médicament qui provoque la colère de l'Académie de médecine et puis du cinéma scientifique avec deux festivals, l'un à Oullins près de Lyon, l'autre à Marseille. Voilà pour le menu complet de notre club des Têtes au Carré. Mes invités donc en studio, le professeur Jean-Marie Joannic, le maître de conférence Philippe Sterre et l'historien du médicament Guillaume Lachenal. D'autres invités vont nous rejoindre au téléphone et puis vos messages qui arrivent déjà en direct sur franceinter.fr. Et sur les réseaux, le mot-clé l'attaque. Mais pour commencer, nous allons vous faire entendre le son qui a déjà marqué l'histoire de l'exploration spatiale. Il s'agit en effet du bruit qui a été enregistré lorsque le robot Philae a atterri sur la comète Chury le 12 novembre dernier. Le CNES, l'agence spatiale française, a annoncé hier sur son compte Twitter que les capteurs fixés sur les pieds du module Philae ont détecté donc la vibration causée par son premier atterrissage sur la comète. Ouvrez bien les oreilles, ça va être très très court. Le son ne fait que 2 secondes. Imaginez cette scène inouïe à 500 millions de kilomètres de votre poste de radio. Voilà ce que cela donne. Voilà, je vous avais dit, c'était court. Le contact donc avec la surface a été bref, mais on peut évaluer les données scientifiques, c'est ce qu'a déclaré Martin Knapp-Meyer, le responsable de CASS. C'est un équipement conçu pour mesurer la propagation du son à travers la surface de la comète et qui fait partie de l'un des 10 instruments présents sur le robot Philae. Ce son, c'est donc celui du contact du robot avec la couche molle et épaisse de plusieurs centimètres de la comète, avant que les pieds de Philae donc ne rencontrent une couche dure et peut-être glacée, évidemment. Philae, auquel on souhaite une bonne hibernation hein, en écoutant une nouvelle fois le son de son atterrissage. Voilà, l'homme capable donc de prouesses extraordinaires dans l'espace, mais également sur Terre, comme on en a eu une nouvelle illustration cette semaine avec cette première française dans le domaine de la chirurgie fœtale qui fait figure d'exploit. Professeur Jean-Marie Joannic, vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Armand Trousseau et avec votre équipe et celle du service de neurochirurgie de l'hôpital Necker Enfants Malades. Vous avez donc annoncé cette semaine avoir procédé en juillet dernier à une opération in utero sur un fœtus de 5 mois atteint de spina bifida. C'est une première en France, c'est une réussite, on peut le dire maintenant, puisque la maman a pu accoucher le 9 novembre dernier par césarienne. Le bébé est en bonne santé, tout va bien ?
Cette petite fille est en bonne santé dans un tel contexte, de même que la maman, effectivement.
Oui. Pourquoi vous avez attendu donc là ces derniers jours pour faire l'annonce ? C'était justement dans l'attente d'abord de l'accouchement ?
Je crois que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais un des principaux risques de cette chirurgie fœtale, c'est une menace d'accouchement prématuré. Le fait que cette petite fille soit née après 8 mois de grossesse, ce qui lui a permis d'être totalement autonome, en particulier sur le plan respiratoire, était un des éléments importants qu'il fallait attendre avant de pouvoir dire que cette intervention avait été un succès.
Ouais, donc c'était en juillet dernier. De quoi souffrait ce bébé alors exactement ?
Alors ce fœtus présentait une anomalie qu'on appelle spina bifida ou myéloméningocèle, qui correspond en fait à une ouverture anormale des corps vertébraux, le plus souvent au niveau de la partie basse du dos, avec une exposition de la moelle épinière et des racines à l'extérieur. C'est la malformation la plus fréquente du système nerveux central.
Ça concerne beaucoup de grossesses, a priori, ou pas ?
À peu près 800 en France par an. Et bien sûr, cette malformation va entraîner un handicap au niveau des membres inférieurs, au niveau des jambes, dans la forme la plus grave, une paralysie, une atteinte également du contrôle des sphincters, et puis enfin, en rapport avec une fuite du liquide céphalo-rachidien qui se fait au niveau de la malformation, on va très rapidement, pendant la gestation, observer à l'échographie une sorte d'effondrement du cervelet, la partie postérieure du cerveau, et ce retentissement cérébral va aboutir à une dilatation des cavités normalement présentes dans le cerveau et perturber de manière importante le développement cérébral.
Donc on arrive à le déceler très tôt ?
C'est un diagnostic qu'on fait le plus communément à 5 mois. Et parfois ce diagnostic est évoqué ou même établi, affirmé dès l'écho du premier trimestre.
Qu'est-ce qui se passe généralement en tout cas lorsqu'on sait que l'enfant est atteint de cette pathologie ?
Dans notre pays, compte tenu de la relative sévérité du tableau et du handicap qui est associé à cette malformation, la majorité des femmes opte pour l'interruption médicale de la grossesse.
Oui. Alors là, en l'occurrence, c'est une première en France, cette intervention. Comment on décide de la pratiquer pour la première fois ? Alors pourquoi vous vous êtes lancé à ce moment-là avec ce bébé en particulier en juillet ?
On échange avec nos collègues étrangers, en particulier du continent américain, depuis une dizaine d'années autour de cette prise en charge prénatale.
Mmh, puisque la pratique aux États-Unis ?
Depuis cette période. Mmh. États-Unis, Brésil. Dans un premier temps, avec une certaine réluctance de notre part, essentiellement parce que pendant une période relativement longue, on ne voyait pratiquement plus de cas de grossesse poursuivie après ce diagnostic prénatal. Et puis depuis plusieurs années, on voit à nouveau des couples qui, après information,
souhaitent garder l'enfant,
poursuivre la grossesse. Mm-hmm. Et on a considéré avec le professeur Zera, avec lequel je travaille autour de cette question depuis de nombreuses années maintenant, qu'il devenait impossible de ne pas pouvoir proposer soin à cette sous-population de couples, hein, ne souhaitant pas l'interruption médicale de la grossesse, puisque une étude américaine très sérieuse dans sa construction et sa méthodologie a démontré un bénéfice pour le cerveau de l'enfant à naître et puis également un gain moteur en particulier pour les membres inférieurs. Oui. Et donc dans cette situation, dès lors qu'un couple exprime son souhait de poursuivre la grossesse, il nous a semblé indispensable de pouvoir proposer à ces couples la possibilité de recourir à cette chirurgie fœtale.
Donc c'est une intervention qui ne va pas guérir l'enfant, si j'ai bien compris.
C'est un point très important.
Qui va améliorer considérablement sa vie plus tard.
On l'espère, en tout cas amoindrir les handicaps. Ouais. L'effet le plus attendu et qui est très important, c'est la protection du cerveau de l'enfant et favoriser ensuite ses acquisitions. Et puis on espère également un gain moteur au niveau des membres inférieurs. Ouais.
Professeur Giovanni, il y a une question de Léa sur franceinter.fr. L'enfant opéré in utero est donc né par césarienne. Ouais. Est-ce un hasard, demande Léa, ou une nécessité avec ce type d'intervention ? Et quelles sont les pathologies qui pourraient être soignées avec cette méthode à l'avenir ? Donc première partie de la question déjà.
C'est une nécessité puisqu'on a pour opérer ce fœtus ouvert le ventre de la maman de manière conventionnelle par une chirurgie à ciel ouvert, permettant d'exposer l'utérus. Et au niveau de l'utérus, on a pratiqué une incision de quelques centimètres. Et du fait de cette incision et de cette cicatrice, un travail n'est pas possible avec des contractions qui risqueraient de déchirer cette cicatrice. Donc une naissance par césarienne est indispensable à la fois pour cette grossesse, c'est-à-dire la grossesse en cours, mais également pour les grossesses futures pour la même raison.
Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait soigner d'autre avec cette méthode donc?
Alors, à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de pathologies fœtales, de malformations, qui peuvent bénéficier d'une approche chirurgicale, mais dont la technique est différente et repose sur un geste qui est principalement éco-guidé, qui utilise des instruments miniatures. Là, je parle des techniques de fœtoscopie qui ont pu être appliquées à certaines malformations pulmonaires, qui commencent à être appliquées à certaines malformations de l'appareil urinaire et qui sont également utilisées pour traiter une complication très spécifique d'un groupe de grossesse gémellaire en utilisant une technique de laser pour venir interrompre, pour faire simple, une communication de la circulation de deux jumeaux, communication qui se fait au niveau de la galette placentaire.
Donc on fait ça par le laser, c'est ça ?
Absolument. Ouais. Absolument.
Donc il n'y a pas d'incision du tout ?
Alors c'est, si vous voulez, une approche un peu comme une amniocentèse qui va utiliser une aiguille un tout petit peu d'un calibre un petit peu supérieur et qui va permettre d'introduire des fibres optiques pour aller observer ce qui se passe dans la cavité amniotique. Et dans certaines indications, on vient de parler du laser, coaguler des vaisseaux. Dans d'autres, venir déposer un petit ballonnet au niveau de la trachée du fœtus en entrant par la bouche, tout ça sous contrôle
C'est stupéfiant quand même,
de la vie.
Ouais. Oui. Ce qu'on arrive à faire maintenant. Pourquoi ce retard français, on pourrait dire, vous disiez, ça fait 10 ans qu'on pratique ce type d'intervention aux États-Unis, par exemple.
On vient de citer la fœtoscopie, mais la France compte parmi les pionniers dans cette technique. Hein, je pense en particulier au professeur Yves Ville, qui travaille à Necker, qui a beaucoup développé la technique laser pour le traitement de ce type de grossesse gémellaire. L'approche fœtoscopique pour une malformation pulmonaire qu'on appelle la hernie de coupole et pour laquelle on vient déposer un petit ballonnet est développée par deux équipes françaises, et en particulier celle du professeur Benacchi à Clamart, dans le même temps que d'autres équipes européennes. Et cette fois, l'Europe a pris un coup d'avance sur le continent américain.
Oui, professeur Joannick, comment on prépare une telle première? Alors, quand on est chirurgien, est-ce qu'on s'entraîne et on fait comment dans ces cas-là? Il y a des répétitions?
D'abord, on réfléchit beaucoup aux conséquences de cette innovation en termes de soins. Ça, c'est très important. Ensuite, oui, on s'entraîne, parce qu'en parallèle, mon équipe travaille depuis plusieurs années sur des techniques alternatives de réparation de cette malformation. Ouais. Ça veut dire que...
On s'entraîne sur des modèles animaux ?
Absolument. Mmh. En l'espèce, on travaille sur un modèle ovin, le fœtus d'agneau, et ça, on le fait depuis plusieurs années. De fait, si vous voulez, l'approche chirurgicale est déjà travaillée. Et puis enfin, pour passer, entre guillemets, à une chirurgie... chez l'homme, en l'espèce chez la femme, il faut également s'entraîner. Et vous voyez, avant de faire cette première intervention, nous avons eu trois interventions qu'on appelle blanches, c'est-à-dire que, oui, qui sont reprises avec l'ensemble du personnel dans des conditions du réel, en reprenant pas à pas les choses.
Ouais, donc ce sont des vraies répétitions avant effectivement le jour J. Est-ce que dans ce cas-là, on ressent un stress particulier sur une première intervention?
Y a une pression qui est importante. Mais c'est une pression qui est liée à un engagement qu'on prend par rapport à un couple qui décide de franchir le pas et pour lequel on souhaite toutes les réussites possibles. Et puis on pense aussi à ce petit fœtus de à peine 500 grammes et à son devenir.
Et à cette petite fille maintenant, donc qui est née
il y a
quelques jours. Voilà. La maman est sortie ou pas de l'hôpital?
Alors la maman va sortir dans les prochains jours, parce qu'il a fallu mettre en place toute une prise en charge très spécialisée pour cette petite fille, parce que finalement l'histoire ne s'arrête pas à cette intervention à 5 mois de grossesse. Mmh. Elle débute aussi réellement après la naissance, et cette petite fille va nécessiter bénéficier de soins très spécifiques à l'hôpital Trousseau, ouais, par l'équipe du docteur Forain qui est spécialisée dans la prise en charge.
Quel est le prénom de cette petite fille?
Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous donner, parce que je ne souhaite pas que cette famille puisse être reconnue. Je veux qu'il vive de manière paisible.
Voilà, donc il y a une confidentialité autour, évidemment, de cette intervention. Félicitations à vous, en tous les cas, professeur Joannick, sur cette première française, donc opération in utero sur ce fœtus. Allez, on pourrait dire quasiment un autre faire-part de naissance cette semaine, celui envoyé par le CERN de Genève, qui nous annonce l'arrivée de deux nouvelles particules découvertes dans le LHC, l'accélérateur de particules qui est à l'origine de la découverte du boson de Higgs. Elie Benaïm, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien au laboratoire de physique nucléaire et de haute énergie de l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes impliqué dans cette découverte. Alors, je parle du LHC, du boson de Higgs. Est-ce qu'on peut préciser peut-être les choses quand même? On n'est pas tout à fait dans le LHC, on est dans le LHCb.
Alors, juste si vous me permettez, avant de commencer, si on peut parler de cette belle découverte aujourd'hui, c'est grâce à l'implication directe d'une personne qui s'appelle Matthew Charles, qui est chercheur, qui fait partie de notre équipe parisienne, et bien évidemment aussi au travail de l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans l'expérience LHCb. Donc maintenant, je pourrais vous répondre.
Alors, donc, c'est le LHCb, effectivement, hein?
Voilà. Et l'HCB, c'est simplement l'une des quatre manips, les quatre expériences du LHC auprès du collisionnaire LHC. Donc il y a Atlas et CMS, en effet, qui ont annoncé en 2012 la découverte du boson de Higgs.
Oui.
Et nous, c'est une expérience qui est plus petite, mais qui marche avec le même, disons, principe de fonctionnement.
C'est-à-dire que les particules se sont entrechoquées et que dans ces chocs, vous avez pu découvrir ces deux nouvelles particules, c'est ça?
Exactement. Donc il y a des millions plutôt de collisions de protons par seconde.
Par seconde, oui.
Voilà, quand le LHC est en marche, ces collisions se passent à quatre endroits précis dans l'anneau, et à proximité ou autour de chaque point de collision, il y a un détecteur. Donc LHCb, c'est simplement l'un de ces quatre détecteurs.
Oui.
Alors quand il y a ce genre de collision, il y a beaucoup de produits beaucoup de particules qui se produisent, selon le principe que beaucoup de monde connaît de E égale MC2, donc l'énergie des protons qui collisionnent se transforme en masse. Et nous cherchons, nous avons trouvé dans ce cas particulier ces deux nouvelles particules.
Comment elles s'appellent exactement, Elie Benaïm?
Elle s'appelle Xi B'. Mm-hmm. Xi B star ou étoile, voilà. Si vous voulez.
Voilà, donc ce sont les deux nouveaux enfants. Hein.
Voilà.
Alors, il y a un courriel de Cyril qui demande ceci et qui nous dit ceci. Il me semblait qu'on avait déjà découvert l'ensemble des particules du zoo quantique. Est-ce que ces deux nouvelles particules pourraient avoir un lien avec la matière noire ou l'énergie noire?
Alors, très indirectement, mais la réponse est non. J'expliquerai après pourquoi très indirectement. Mais disons que c'est... deux particules sont vraiment des particules de ce qu'on appelle le modèle standard.
Oui.
Donc ce sont des particules qui ont été prédites par ce qu'on appelle le modèle des quarks, hein, qui est une partie du modèle standard. Et donc, non, ce ne sont pas des particules de matière noire.
Quelle est l'importance de cette découverte exactement?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs couches qu'il faut faire pour cette réponse. Donc, tout d'abord, vous savez, le LHC, c'est le collisionneur le plus puissant qui a été jamais construit. Donc, disons que nous sommes en train d'explorer une terra incognita. Nous sommes allés regarder dans un domaine d'énergie et de précision jamais exploré avant. Donc, comme tout explorateur, nous sommes très contents déjà d'être tombés pour une première fois sur de nouveaux objets. Mais bon, maintenant, comme j'ai dit, le modèle standard les a prédits. Par contre, disons que la théorie d'interaction forte, qui décrit l'interaction entre... les quarks qui constituent ces deux nouvelles particules, elle a du mal à prédire la masse des particules. Donc le fait qu'on a mesuré la masse et d'autres quantités liées à ces particules, ça apporte de la connaissance de plus à cette théorie d'interaction forte.
Et donc ça confirme les prédictions qui avaient été faites, en tout cas autour de ces particules,
voilà.
Xi B' et Xi B star. Donc on voulait les saluer quand même, leur souhaiter l'arrivée parmi nous, Eli Benaïm, grâce à cette découverte importante. Je crois que pour vous c'est quand même quelque chose qui marque aussi l'histoire du LHC. Hein.
Tout à fait. Bon, il faut quand même dire que c'est une découverte qui n'a pas l'importance, ça n'a pas d'importance comparable
au boson.
À la découverte du boson de Higgs.
Oui.
Mais la contribution, bon, comme vous m'avez demandé tout à l'heure l'importance, hein, il ne faut pas oublier que
Absolument. Nous
sommes dans un contexte dans un contexte où le but c'est de trouver quelque chose au-delà de ce modèle standard que nous connaissons. Hein. Et donc chaque information de plus contribue directement ou indirectement faciliterait, j'espère, la recherche de cette nouvelle physique.
Merci beaucoup, Eli Benaïm, en tout cas, de nous avoir donné quelques éléments de compréhension sur la découverte de ces deux particules, donc au LHCb, au CERN de Genève. Bonne journée à vous. Merci infiniment.
Merci à vous. Bonne
au revoir.
Journée.
Allez, l'actualité scientifique, ce sont également des publications comme celle qui est arrivée aujourd'hui et que vous signez, Philippe Sterr. On parle avec vous du phénomène de l'érosion qui pourrait provoquer des séismes. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rennes 1. Merci d'être venu ici dans les studios de la Tête au Carré. Vous signez des travaux donc, qui paraissent aujourd'hui dans Nature Communication. Et à ce sujet, on apprend que l'érosion et la sédimentation pourraient déclencher des séismes. Alors, on va expliquer pourquoi. Comment d'abord vous avez été amené à travailler sur cette question ?
Alors en fait, j'avais été lancé plus ou moins sur le sujet pendant ma thèse, il y a de ça quelques années. Et c'est un sujet que j'ai continué par la suite. En fait, j'ai toujours été passionné par l'étude des paysages et comprendre l'interaction entre ces paysages et les grands mouvements de la tectonique des plaques.
Ouais.
C'est ça qui m'a emmené en fait à me poser cette question de est-ce que l'érosion peut avoir un effet sur, par exemple, les séismes en fait.
Alors, vous avez un laboratoire intéressant pour étudier tout ça, parce que c'est Taïwan. Hein ?
Oui, exactement. Alors, Taïwan, pour nous qui sommes des géologues, en fait, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Hein. Tout se passe très très vite. La tectonique des plaques a une vitesse extrêmement importante. Il y a deux plaques qui se rencontrent à une vitesse de 8 cm par an.
Ouais.
L'érosion, il est très rapide. Elle atteint par exemple des taux de 30 mm par an, ce qui est
Très rapide, enfin c'est très important.
Alors ça peut sembler pas beaucoup.
On peut le comparer à ce qui se passe par exemple en France.
Oui, alors par exemple à Paris où nous sommes, les taux d'érosion sont largement inférieurs au millimètre par an.
Ah oui.
Dans les Alpes où il y a des reliefs plus importants, on est plutôt proche du millimètre par an.
Et là
donc,
c'est 30 fois plus à Taïwan.
Quand on parle de 30 mm par an, c'est des taux qui sont extrêmement rapides en fait.
Ouais.
C'est vrai que c'est pas facile à quantifier pour des humains, mais c'est rapide.
Ouais, donc c'est un lieu particulier, vraiment.
Oui, c'est vraiment tout y est extrême en fait. fait. Les typhons sont extrêmes, les séismes sont extrêmes, et l'érosion aussi est extrême. En fait.
Comment agit l'érosion alors en général jusqu'à ce qu'on découvre, et c'est le cas pour vous, que ça puisse donc influencer, provoquer des séismes?
Alors l'érosion, en fait, c'est tous les processus qui contribuent en fait à transporter de la masse et à enlever de la masse depuis les zones de haut relief, comme les chaînes de montagne, vers les zones plus plates, comme les bassins ou les zones océaniques. Mmh. Alors cette érosion, c'est par exemple le transport par les rivières, c'est l'abrasion par les glaciers, ça peut être aussi par exemple quand il y a des grands typhons, il y a énormément de glissements de terrain qui peuvent être générés. Et donc tous ces processus en fait contribuent à décharger en quelque sorte la surface de la Terre.
Ouais, ça rabote, hein, on pourrait presque prendre cette image.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça, c'est un rabot. Ouais. Et ce rabot, en fait, qui est certes pas très rapide, mais quand même à 30 mm par an, en fait, à force de raboter, décharge les contraintes et en fait favorise le mouvement sur les failles qui sont en profondeur. Donc quand je dis que ça favorise le mouvement, ça veut dire que ça va avoir tendance à augmenter les contraintes ou les forces sur le plan de faille. Alors qu'est-ce que c'est une faille? En fait, peut-être c'est important à définir d'abord. Une faille, c'est une zone qui va séparer deux blocs de roches. Et ces deux blocs de roches, comme par exemple des plaques tectoniques, se déplacent l'un par rapport à l'autre. Mmh. Et ce mouvement, en fait, n'est pas suivi au niveau de la faille. La faille, en quelque sorte, va accommoder cette déformation sans bouger. C'est comme un élastique sur lequel on tire progressivement. Et en fait, pendant le séisme, c'est le moment où l'élastique va lâcher.
Ouais.
Et donc, en fait, cette phase de chargement par l'élastique, ou quand on tire sur l'élastique, c'est équivalent au fait justement de décharger ces reliefs par le mécanisme de l'érosion. Et donc, si on rajoute un peu, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient tirer en plus sur votre élastique, on comprend bien qu'en fait, on va arriver à rompre plus rapidement l'élastique. En fait. Ouais.
Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que, et ça fait tout l'intérêt de votre publication, c'est qu'on n'avait jamais fait ce lien auparavant entre l'érosion et les conséquences sismiques.
Alors, pas exactement, en fait. Effectivement, hein, ça n'a pas été vu sous cet angle-là. C'est-à-dire que depuis assez longtemps, en fait, on a étudié l'effet de l'érosion sur la tectonique des plaques, mais à plus grande échelle de temps et à plus grande échelle d'espace. Et donc, on s'était posé la question, est-ce qu'on ne peut pas aller regarder justement des temps beaucoup plus courts, à des temps où on peut, par exemple, instrumenter la déformation avec des sismomètres ou suivre l'érosion, par exemple, en allant sur le terrain et la mesurer. Donc, des temps de quelques années. D'habitude, on étudiait plutôt ça à l'échelle des temps géologiques, c'est-à-dire du million d'années, voire de la centaine de millions d'années.
Là, on veut regarder les choses quasiment en temps réel.
Exactement,
alors,
c'est quasiment du temps réel.
Et donc, Taïwan permet ça, alors, pour le coup.
Taïwan permet ça. Ce serait beaucoup plus compliqué de faire ce genre de travaux, par exemple, en France, en fait, effectivement.
Ouais. Comment vous avez travaillé alors pour voir ce lien entre érosion et sismicité, et puis vous allez nous dire quand même quel type de sismicité ça peut provoquer. Hein.
Alors comment est-ce qu'on a travaillé? Alors souvent la démarche qu'on a en sciences de la Terre, c'est qu'on part de l'observation. Donc par exemple là c'était l'érosion sur Taïwan qu'on avait pu mesurer notamment en mesurant la quantité de sédiments qui sont exportés par les rivières par chaque année. Donc à partir de ça on a une bonne idée de là où est-ce que l'érosion se produit à Taïwan. Et on s'est servi de ce taux d'érosion pour, on l'a introduit dans un modèle de déformation de la croûte terrestre où là on fait l'hypothèse que la croûte se déforme donc comme cet élastique. Hein, donc avec des propriétés élastiques.
Donc là, c'est des maths encore, hein, c'est de la modélisation.
Oui, exactement,
en fait, hein,
exactement. C'est ça, et donc, on s'est servi de ce modèle pour justement estimer quelles étaient les contraintes additionnelles qu'on pouvait apporter grâce à l'érosion. Alors, ces contraintes, pour donner un ordre de grandeur, elles sont de l'ordre de quelques bars. Alors, quelques bars, à quoi ça peut se comparer?
Oui, par exemple.
Alors, par exemple, quand vous gonflez vos pneus de vélo, on a tendance à les gonfler à peu près à 6 bars.
Ouais.
Donc là, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Mais il faut savoir que, par exemple, un séisme, quand il a lieu, il a tendance à relâcher à peu près 30 bars. Donc on va dire à peu près 5 fois la pression qu'il y a dans votre pneu de vélo. C'est assez intéressant. Donc ce n'est pas des pressions qui sont extrêmement fortes, mais elles sont suffisantes pour déclencher des séismes en fait.
Et ça se déclenche partout sur Terre, a priori? Est-ce que ce phénomène, justement, peut avoir des incidences dans toutes les parties du monde?
Alors, partout où il y a de l'érosion, donc c'est-à-dire notamment dans les chaînes de montagne, dans les zones de rift, par exemple, et ainsi de suite.
Professeur Joannick.
Question de Béotien. Mais est-ce que cette découverte, ça ne permet pas d'envisager un mécanisme de prévention de l'apparition de séismes?
Ah voilà, oui.
Alors c'est une très bonne question.
Est-ce que c'est un nouvel outil, oui?
Alors la réponse est non.
Malheureusement.
Malheureusement, hein. Elle est non. La prévention sismique ou la prédiction sismique était vraiment une tâche très ardue. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir prédire un séisme, il faut être capable de connaître parfaitement, par exemple, le plan d'une faille, c'est-à-dire la rugosité qui se développe sur une faille. Il faudrait connaître exactement les zones de chargement de contraintes, comprendre aussi à quelle vitesse cela se fait. Il faudrait aussi savoir s'il y a, par exemple, de l'eau sur le plan de faille. Il y a plein de petites choses en fait, qui font que c'est extrêmement compliqué de savoir exactement à quel endroit et à quel moment on peut avoir un séisme.
Ouais.
Par contre, ce qu'on est capable de faire en sciences de la Terre, c'est plutôt d'estimer l'aléa sismique et d'estimer à peu près quelles sont les probabilités d'avoir un séisme à tel endroit dans un intervalle de temps raisonnable.
Oui, donc ça c'est intéressant pour des lieux justement qui sont très soumis
c'est le cas d'Istanbul ou de la Turquie. Hein. On sait qu'il y a un grand risque d'avoir un grand séisme à Istanbul. Et du coup, on est capable de dire, voilà, dans les 50 années à venir, il y a un risque qui n'est pas négligeable. Et donc, les autorités sur place, après, prennent des mesures justement pour pouvoir parer à ce genre d'événement, que ce soit dans les constructions ou ainsi de suite.
Guillaume Lachenal.
Oui, non, juste la Chine maoïste avait eu un programme de prédiction des séismes, un programme très décentralisé où on demandait aux paysans d'observer les animaux, d'observer
les signes avant-coureurs,
comportements des poulaillers, etc., et de les reporter. Je ne sais pas ce qu'on en pense à Taïwan.
je ne connaissais pas ça.
C'est vrai. Un historien qui a travaillé là-dessus.
C'est vrai, d'accord. Parfois on dit que certains animaux manifestent des signes avant que l'événement n'arrive. Mais...
Bah, apparemment, ça a été le cas à Sumatra pendant le séisme de 2004, enfin de Noël 2004.
Mais Professeur Joannick, je vois sourire, pourquoi ?
Non, mais j'imagine mal les Taïwanais s'inspirer de quelque chose qui a trait à la politique.
Bah oui, mais... Ah oui, pour des raisons politiques, effectivement. Mais les éléphants, ça peut être par exemple un bon indicateur, peut-être.
Peut-être.
Alors en tout cas, évidemment, cette découverte, ça permet de prendre en compte maintenant ce paramètre de l'érosion sur la survenue des séismes. Donc c'est très important, c'est une première là aussi.
Oui.
C'est une nouveauté puisque jamais on avait fait cette association. Alors quel type de séisme par contre ça peut provoquer ?
Alors en fait, l'érosion va avoir tendance à favoriser le développement de contraintes sur les parties les plus superficielles d'une faille, c'est-à-dire à peu près entre 0 et 5 km de profondeur.
Ouais.
Il faut savoir que les failles font à peu près, la plupart des failles continentales font à peu près 15 km de profondeur. Donc c'est dans la partie superficielle. Pourquoi ? Parce que c'est là, en fait, on est le plus proche justement de la surface terrestre. Et à ces endroits-là, en fait, ce qui est même intéressant, c'est que ces contraintes qui sont liées à l'érosion peuvent même dépasser les contraintes qui sont générées par les grands mouvements de tectonique des plaques, en fait. Mais par contre, vu que c'est des séismes qui vont se prendre naissance dans des parties superficielles de la faille, ça va être des séismes qui sont souvent qu'on va qualifier de modérés ou de petits. C'est-à-dire qu'on va rarement dépasser des magnitudes 5 ou 6. En fait.
Ouais. Alors, est-ce que du coup, on peut se dire qu'il y a d'autres phénomènes qu'on ignorait auparavant, en tout cas le lien avec le séisme, qui pourraient être maintenant identifiés ou pas ?
Alors, il y a déjà eu d'autres mécanismes qui ont été identifiés, comme par exemple la pluie. On sait que la pluie, par exemple, l'eau, après, s'infiltre en fait dans les failles. Et cette pluie, en fait, cette eau a tendance à décomprimer légèrement le plan de faille et permettre le glissement. Donc ça, on avait déjà identifié, par exemple, la pluie comme un mécanisme pouvant créer ou déclencher des séismes. Mais il reste probablement d'autres mécanismes à envisager, effectivement.
Lesquels, par exemple ? Vous pensez à quoi ?
J'ai pas forcément en tête.
Parlez-nous des typhons quand même. Dites-nous un mot sur les typhons.
Oui, alors les typhons, ils peuvent aussi avoir un rôle. Effectivement, ça, c'est des travaux qu'on est en train d'aborder. Ils peuvent avoir un rôle parce qu'en fait, les typhons ont un forçage très important sur l'érosion. Par exemple, en 2009, à Taïwan, il y a eu le typhon Morokot. Et ce typhon, il avait plu en fait 3 mètres en 3 jours. Donc c'est monstrueux. Il faut comparer avec Paris où il pleut à peu près 700 mm par an. Donc là, c'était à peu près 5 fois plus en 3 jours. Et donc cette grande quantité de pluie avait déclenché énormément de glissements de terrain, beaucoup d'érosion. Et en fait, on est en train d'analyser les données de sismicité après ce typhon-là. Et on se rend compte qu'en fait, qu'il y a un changement au niveau de la dynamique des séismes suite au typhon. En fait.
En tout cas, félicitations pour cette découverte importante,
merci.
Cette publication donc, qui sort aujourd'hui et dont vous venez nous parler en primeur dans la Tête au Carré cet après-midi. Philippe Sterre, donc sur le lien entre érosion et séisme. L'homme que nous allons entendre dans quelques minutes, lui, est capable de provoquer les foudres de l'Académie et de médecine. Il s'appelle Guillaume Lachenal, il sera avec nous dans un instant. J'ai dit, hey, 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 On ne se méfie jamais assez. Julien Clerc sur France Inter.
Le club carré sur France Inter.
Guillaume Lachenal, historien de la médecine à l'université Paris Diderot. Vous avez courroucé l'Académie de médecine qui s'est fendue d'un communiqué cette semaine pour dire à quel point elle était indignée par l'histoire que vous avez racontée dans un livre qui concerne un médicament administré à la fin des années 50 en Afrique afin de lutter contre la maladie du sommeil. Donc le mieux, c'est peut-être de reprendre l'histoire dès le début, Guillaume Lachenal, pour d'abord nous dire le travail que vous avez mené, puisque vous avez publié il y a quelques semaines aux éditions de La Découverte cet ouvrage, Le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique au colonies. En tant qu'historien, quelle est l'enquête donc que vous avez menée exactement ?
Alors mon projet, c'était de raconter l'histoire de la décolonisation de l'Afrique à travers l'histoire d'un médicament, la trajectoire d'un médicament qui est la pentamidine qui a été vendue en France sous le nom de l'omidine. Mmh. C'est un médicament qui arrive dans l'après-guerre en Afrique et qui suscite un enthousiasme extraordinaire. Parce qu'il est très efficace contre la maladie du sommeil. C'est un très bon traitement de la maladie du sommeil, ça l'est toujours. Et puis, les médecins coloniaux de l'époque découvrent qu'il peut avoir un effet préventif contre la maladie du sommeil.
Ouais.
Si on l'injecte aux populations une fois tous les 6 mois, voire une fois tous les ans ou tous les 2 ans, il semble protégé contre la maladie du sommeil.
Ouais. Quels sont les symptômes en 2 mots de cette maladie ?
Donc, c'est une maladie parasitaire, qui est un trypanosome, le parasite qui est transmis par la mouche tsetse. C'est une maladie dont on pense qu'elle est fatale, qui provoque des atteintes. C'est une maladie qui a un cours assez long sur le plan clinique et qui est la grande menace à l'époque, identifiée par les pouvoirs coloniaux, le grand obstacle au développement de l'Afrique. Et donc, c'est la priorité des services de santé de l'après-guerre pour moderniser l'Afrique et la faire décoller économiquement.
Donc, il y a cette molécule qui arrive. Non commercial, donc la lumidine, de la pentamidine, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Comment donc agit ce médicament exactement ?
Alors, à l'époque, on pense que c'est un médicament qui reste dans l'organisme pendant 6 mois, 1 an, et qui le protège contre le parasite. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est un peu la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, malgré l'immense espoir que suscite le médicament et les très bons résultats dans les premières années, on sait aujourd'hui que la maladie n'a pas été éradiquée, même si c'était l'espoir des médecins de l'époque. Et puis on sait aussi que la pentamidine a complètement changé dans les années 60 de statut. Plus personne, à partir des années 60, ne croit au pouvoir préventif de la pentamidine. Les études de pharmacocinétique montrent que la pentamidine ne reste pas dans l'organisme plus de quelques jours, maximum quelques semaines. On sait aussi que la pentamidine pose des problèmes d'effets secondaires très importants, beaucoup plus importants que pour d'autres médicaments, même si c'est un médicament qui est toujours utile aujourd'hui.
Donc on l'utilise encore, il est toujours sur le marché.
Mais c'est un médicament qui est très délicat à utiliser. Et que plus personne aujourd'hui n'oserait utiliser de manière préventive contre la trypanosomiase.
Mais alors, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de ce sujet, au fond ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ?
Alors, ce qui m'a mis sur la piste de ce sujet, c'est un travail d'archives au Cameroun, où je suis tombé sur des archives édifiantes liées à des accidents de lomidinisation, puisque cette technique préventive, on l'appelait la lomidinisation, des accidents qui ont eu lieu lors des campagnes et qui ont provoqué de véritables hécatombes dans des villages au Cameroun, au Gabon, au Tchad.
Donc ça, ce sont les pays concernés, effectivement. On s'aperçoit de quoi, alors, justement, à l'époque, puisque là, c'est le cœur de votre enquête.
Alors, à l'époque, bon, alors ces accidents vont conduire assez rapidement à l'abandon de la technique, mais ils sont précédés par toute une série d'autres accidents. Et ce que montre mon enquête, c'est que ces accidents se répétaient, ils étaient bien connus par les médecins, ils étaient prévisibles, et pourtant les campagnes étaient poursuivies. C'est un peu la question de départ de mon enquête, c'est comment, en dépit de ces accidents terribles, en dépit d'autres accidents liés aux effets secondaires du médicament, comment on a continué à croire dans le médicament. Donc c'est une question presque d'anthropologue, comment la confiance, comment la croyance dans ce médicament s'est produite et s'est maintenue dans les médecins et les équipes qui faisaient ces campagnes.
Ouais. Quand vous dites des accidents, ce sont des morts concrètement alors ?
Alors en ce qui concerne les accidents sur lesquels je suis tombé dans les archives, oui, c'est des décès liés à des infections causées par l'injection de l'omidine, des décès par gangrène. Et puis il y avait d'autres décès liés à la toxicité du médicament, beaucoup plus rare, mais qui était quand même bien présent, puisque c'était des campagnes à très grande échelle, des décès liés à des arrêts cardiaques.
Ouais. Et donc, on estime combien le nombre de victimes exactement?
Alors moi, je compte pas les victimes, c'est pas la façon dont je travaille. Ce qui m'intéressait, c'était le statut qu'ont eu ces décès et la manière dont ils n'ont pas compté, en quelque sorte. C'était des morts bêtes, entre guillemets, qui sont intervenues à un moment où la maladie du sommeil n'était plus une menace, mais où la seule motivation des campagnes, et c'était un peu une des questions au départ de mon travail, la seule motivation des campagnes était l'éradication. Il fallait faire disparaître, il fallait finir le travail, entre guillemets, et c'est pour ça qu'on continuait les campagnes à un moment où la maladie n'était plus une menace, et donc, c'est à ce moment-là que sont intervenus ces accidents terribles.
Donc c'est la question que vous posez. Pourquoi, au fond, on a continué cette prévention alors que ça n'était plus nécessaire?
Oui, alors que la maladie n'était plus une menace et que seule l'éradication et l'enthousiasme qu'avaient les médecins pour ce projet motivaient la poursuite des campagnes.
Vous parlez de l'anthropologie de la bêtise. C'est une expression qui est lourde de sens. Ça veut dire quoi exactement si on décrypte?
Alors c'est la manière la plus généreuse que j'ai trouvée pour qualifier cet épisode. Je ne pense pas que les médecins étaient fous. Je ne pense pas qu'ils étaient cyniques. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'enjeux de profit. Hein, et c'est pour ça que le terme scandale pharmaceutique laisse un peu...
c'est le sous-titre
du
livre.
Prête un peu à confusion.
Scandale pharmaceutique aux colonies.
Il
n'y
a pas eu d'enjeu, à ma connaissance, en tout cas, ce n'était pas l'objet de mon enquête, de profit lié à la continuation de ces campagnes. Par contre, et je ne pense pas non plus que c'est une erreur. On n'est pas dans l'ordre de l'erreur ou du manque de raison. Au contraire, on est dans l'ordre de l'excès de raison. On est dans l'ordre d'un projet très scientifique qui avait une grande confiance en lui. Et une forme d'enthousiasme, d'obstination, d'agressivité aussi, puisque les populations étaient obligées de se soumettre à ces campagnes, au nom de l'éradication, au nom de cette volonté de conclure qui était pour Flaubert la définition de la bêtise.
D'où cette expression d'anthropologie de la bêtise. Professeur Joannick, vous voulez réagir?
Oui, non, je trouve, enfin, c'est très frappant ce terme d'anthropologie de la bêtise, mais ça me fait penser à des histoires de la médecine moderne et continentale plus récente. Je pense en particulier au drame qu'a causé le Distilbène, qui était le traitement miracle des menaces de fausse couche, qui a été utilisé très tard en France, bien plus tard que les autres pays. En France, donc pas du tout en Afrique. Non, il y a une question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que ce jugement que vous portez, vous le portez pas avec un regard de l'approche méthodologique actuelle, du raisonnement actuel? Et est-ce que ça apporte pas une certaine correction à avoir sur les années 50? C'est-à-dire que la démarche expérimentale pour juger de l'efficacité d'un médicament n'était pas la même. La manière dont la médecine donnait la bonne parole également en Europe n'était pas la même. Ne pensez-vous pas que ça amène nécessairement un petit facteur de correction?
C'est un problème brûlant pour l'historien, parce qu'il est interdit pour un historien d'être dans le jugement rétrospectif. Alors je m'en défends un peu dans le livre et je joue un peu avec ce jugement rétrospectif, qui n'est pas pour moi une façon de juger si les médecins se sont trompés, s'ils ont bien fait ou mal fait, mais qui est vraiment un outil d'enquête. C'est parce qu'on sait ce qu'on sait aujourd'hui de la pentamidine que j'ai été intéressé par cette enquête et que j'ai fait beaucoup d'efforts, que j'ai beaucoup voyagé pour essayer d'enquêter. Dire que c'était la médecine de l'époque et que c'était comme ça, etc., ça ne marche pas dans ce cas, parce que les archives sont accablantes là-dessus. La pentamidine n'était pas du tout utilisée de manière préventive quand il s'agissait d'Européens ou de colons. Donc les risques étaient très connus. On est à une époque où il y a déjà des scandales pharmaceutiques, le Stalinon en France en 54, quelques mois avant les accidents que je décris. On a conscience de beaucoup de ces risques liés aux médicaments, à tel point qu'on refuse de le donner quand il s'agit d'un colon. Donc l'argument « c'était avant d'autres normes, une autre éthique, etc. », en fait, ne marche pas si bien dans ce cas. Il y a autre chose.
Alors, Guillaume Lachenal, l'Académie de médecine s'est fendue d'un communiqué cette semaine avant-hier, manifestant, donc exprimant son indignation devant une instrumentalisation de l'histoire. C'est sévère, hein, quand même, à votre égard. On leur a demandé de répondre à nos questions. Personne n'a voulu s'exprimer. En tout cas, ce qui ressort de ce communiqué, c'est le dénigrement de la mémoire des médecins du corps de santé coloniale. Voilà, pour prendre les termes exacts de ce communiqué, qu'est-ce que vous voulez répondre à l'Académie de médecine? Donc, d'abord, sur ce terme d'instrumentalisation.
Non, mais c'est un honneur qu'elle s'intéresse à mes recherches.
Oui, certes.
Et puis, pour un historien, c'est toujours un plaisir de voir comme ça un communiqué qui semble venu d'un autre temps. L'Académie a raison de corriger deux points de vocabulaire qui sont liés à des choses qui ont été écrites sur mon livre. Le médicament dont je parle n'était pas un vaccin.
On est d'accord.
Ce qui est intéressant, si l'Académie avait lu le livre, c'est qu'elle aurait vu qu'il était par contre systématiquement présenté comme un vaccin par la propagande médicale, par des membres de l'Académie de pharmacie. Et par ailleurs, autre point de vocabulaire, mon intention n'est pas de faire scandale, ni de révéler un scandale. Je suis historien et j'étudie un scandale qui a été nommé comme tel à l'époque, avec au Cameroun des émeutes, des gens qui s'indignent, des communiqués de presse, etc. Et auxquels on a répondu, auxquels l'État colonial a répondu, en faisant tout pour classer ce dossier. Et auxquels on a répondu de la même manière que l'Académie aujourd'hui, en disant arrêtez de dénigrer le travail des médecins, donc en se plaçant tout de suite sur le terrain affectif, arrêtez de dénigrer le travail des médecins, en nous accusant, si vous continuez, on va arrêter de vous soigner. Et vous, les Africains, vous êtes vraiment ingrats. Donc il y a une sorte d'écho étrange entre ce qui était répondu à l'époque et ce qui est répondu.
L'Académie, en tout cas, écrit que les médecins humanitaires de l'époque ont bravé les fièvres et les épidémies, souvent au péril de leur vie, pour soigner et faire progresser la médecine. Et que dans la balance bénéfice-risque, c'était largement bénéficiaire justement que de proposer ce médicament.
Alors, moi, évidemment, il y a plein d'histoires extrêmement belles liées à la médecine coloniale. Ce qui est un peu choquant dans le communiqué de l'Académie, c'est qu'elle suggère que finalement tout cela valait la peine. Moi, je laisse les lecteurs libres de juger à la lecture du livre l'énormité de ces propos.
En tout cas, voilà, communiqué donc du 18 novembre dernier avec ce livre donc, que vous signez, Guillaume Lachenal, Le médicament qui devait sauver l'Afrique et qui est publié aux éditions La Découverte. Dans la collection Les empêcheurs de penser en rond, qui porte bien son nom là pour le coup. Hein. Si vous aimez le cinéma et la science, et pour terminer ce club des têtes au carré, vous avez deux possibilités cette semaine. Soit vous rendre à Oullins, près de Lyon, soit descendre à Marseille. Et comme nous n'avions pas envie de faire un choix, nous vous proposons de nous télétransporter dans les deux endroits à la fois, où chacun va devoir défendre au mieux son festival. À ma gauche, à Oullins, Pascal Bazin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du festival À nous de voir. Et à ma droite, Serge Dantin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur artistique des rencontres internationales science-cinéma de Marseille. Alors, vos deux événements ont démarré en même temps hier. J'imagine que vous connaissez un petit peu, non, quand même ?
Oui, on s'est auto-invité.
Bon,
tout à fait.
Pascal Bazin, À nous de voir, c'est jusqu'au 30 novembre au Théâtre de la Renaissance à Oullins. Défendez votre festival, donnez-nous envie de venir vous voir, alors.
Eh bien, c'est 10 jours intensifs d'images de cinéma et un cinéma qui a vocation de nous réinterroger, nous déplacer, nous émouvoir sur des questions très multiples de science. Hein. Ce soir, à l'affiche, le football féminin, les jeux vidéo et quoi encore, des questions de plantes qui peuvent nous soigner. Et puis, on peut aller jusqu'au curseur à qui profite la dette. C'est une profusion de sujets, parce que les sciences, c'est au pluriel, à Oullins, et la question du cinéma est tout genre confondu, jusqu'à une nuit de la science-fiction. Donc, c'est ces 10 jours qui permettent à pas loin de 10 000 spectateurs de pouvoir débattre, échanger, discuter sur ce qui nous concerne au quotidien et puis dans notre rapport au monde, plus globalement aussi.
Serge Dantin à Marseille, on a jusqu'au 29 novembre pour venir vous rencontrer dans différents lieux d'ailleurs du centre-ville, dont la Maison de la Région sur la Canebière.
Oui, absolument.
Et c'est la 8e édition.
Oui. C'est la 8e édition du festival qui a commencé effectivement hier à la Maison de la Région, qui se poursuit à la Maison de la Région jusqu'à dimanche, ensuite dans différents lieux, Cinéma Le Prado, BFM Barat-Cazard, le Muséum d'Histoire Naturelle, le Musée d'Histoire de Marseille et le Cinéma Les Variétés. Donc, multiplicité de partenariats avec une quinzaine de séances, une cinquantaine de films. Bon, suite à l'appel à films, des films qui viennent de tout pays et de tout genre. Enfin, là, je croise les réflexions et les commentaires de Pascal. C'est-à-dire, c'est des courts-métrages, des longs-métrages, de documentaires, cinéma expérimental, fiction, animation, pour tout âge, avec des séances jeunes publics, où même le jeune public peut venir voter pour le meilleur film. Il y a un prix jeune public qui est attribué.
Oui.
avec des thèmes scientifiques extrêmement larges aussi. Ça va des maths aux sciences sociales, en passant par la biologie, la physique, etc. Mais c'est vrai que l'entrée forte, c'est l'artistique, je dirais. Hein. C'est-à-dire que c'est d'abord le cinéma, découvrir du cinéma et rencontrer à la fois des cinéastes qui viennent de tout pays et des chercheurs qui viennent aussi apporter leur éclairage du côté de la recherche. Au fond, c'est recherche en cinéma versus recherche en sciences.
Ouais, Pascal Bazin, c'est cinéma et documentaire aussi chez vous, hein?
Alors, c'est bon, vous avez fait un très très bon choix, puisqu'on est dans les deux festivals Lyon-Marseille qui se ressemblent étrangement, et je pense qu'on défend un cinéma pluriel, et c'est par ce cinéma-là qu'on fait le pari que le tout à chacun, aussi bien scientifique que cinéaste, que société civile, peut être réinterrogé et déplacé dans sa manière de penser le monde. Donc, pour s'être côtoyé, je pense qu'il y a un vrai pari de travailler autour d'une proposition artistique, oui, singulière. Et je pense que c'est ce qui participe aussi à ce qu'il y a un possible débat public. Par cette entrée d'une œuvre et puis c'est aussi cette dimension de partager ensemble, collectivement, un moment de cinéma.
Alors Serge Dantin, on parlait tout à l'heure des deux nouvelles particules découvertes au CERN. Justement, il faut signaler la séance spéciale avec Particule Fever chez vous dimanche.
Absolument. Alors c'est la seule séance payante du festival qui est en entrée libre par ailleurs. C'est un nouveau partenariat cette année avec le cinéma Le Prado, qui est c'est une séance en entrée payante, mais quand même très abordable à 3,50 €. Effectivement, c'est autour de l'histoire de la découverte scientifique. Enfin, en tout cas, toute cette expérience absolument considérable de la découverte qui a mené à la découverte, donc en tout cas à la confirmation de l'existence du boson de Higgs, hein, voilà, et au grand accélérateur de particules du CERN, donc avec une séance avec pas mal de chercheurs physiciens, autour de l'histoire de cette découverte scientifique fondamentale. Ouais. C'est la plus grande expérimentation scientifique
de
tous les temps.
On le disait tout à l'heure.
Absolument. Donc, et c'est vrai que pour croiser les réflexions de Pascal Bazin, c'est vraiment autour de la connaissance. C'est pas que la connaissance scientifique, c'est aussi la connaissance artistique. Et au fond, c'est des choses qui nous importent.
Allez, en tout cas, on vous salue et on vous souhaite un très beau festival. Donc ça a démarré hier à Oullins près de Lyon, comme à Marseille. À nous de voir donc au Théâtre de la Renaissance. RISC, 8e rencontre internationale sciences et cinéma de Marseille. Et bien évidemment, les auditeurs ont toutes les infos en lien avec vos sites internet pour avoir toute la programmation et découvrir les films donc à l'affiche chez vous. Merci Pascal Bazin,
merci.
Serge Dantin.
Merci. Merci à vous.
Bon week-end, bon festival à tous. Fabrice Drouel, vous allez bien Fabrice?
Mais très très bien, je vous remercie Mathieu.
On va se retrouver avec la fiction du vendredi si je ne m'abuse.
Absolument, vous ne vous abusez pas, elle sera consacrée à une grande dame, vous êtes dans notre série Grande Dame.
Oui.
Germaine Tillion avec comme invité l'homme qui la connaît le mieux, qui connaît mieux son œuvre, c'est Svetlana Todorov, philosophe essayiste et président de l'association Germaine Tillion.
Et merci au professeur Joannick, Guillaume Lachenal et Philippe Sterre qui étaient avec nous dans ce club des Têtes au Carré. Passez un bon week-end également.